L'actualité, on en parle avec Jean-Yves Bretot et son invité.
Et je reçois aujourd'hui dans On s'en parle sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com Jean-Paul Delahaye, administrateur national de la Ligue de l'enseignement. Il sera avec nous par téléphone et Nathalie Kund, qui est la secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement FAL 72. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté mon invitation. Jean-Paul Delahaye, merci d'être avec nous par téléphone.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
On peut peut-être rappeler le rôle et les missions que porte la Ligue de l'enseignement pour celles et ceux qui vous découvriraient. On ne sait jamais.
Alors, la Ligue de l'enseignement, c'est le plus ancien mouvement d'éducation populaire créé par Jean Massé en 1866. C'est donc une confédération de fédérations départementales, plus d'une centaine de fédérations départementales, 25 000 associations réparties sur le territoire national affiliées à la Ligue de l'enseignement. Et nous organisons des centres de loisirs, des centres de vacances, les fameuses colonies de vacances. Nous assurons aussi la formation des animateurs. Nous avons un gros secteur culture avec du théâtre, du cinéma, bref, l'ensemble de ce qui constitue la culture, l'éducation populaire dans notre pays. La Ligue de l'enseignement est aux avant-postes.
Nathalie Kund, justement, comment ça se met en place, ces missions de l'enseignement?
L'enseignement complémentaire, je dirais, c'est complémentaire de l'éducation nationale. Et on œuvre beaucoup dans le hors temps scolaire, périscolaire, etc., ou en co-construction de projets avec les enseignants. Donc, dans tous les domaines qui viennent d'être décrits, on va prévoir, nous, des ressources, des formations, des animations qui vont permettre aux enseignants et aux animateurs de mettre en place des choses avec les jeunes citoyens de demain, dans un bon esprit, dans l'esprit de partage, de vivre ensemble et de liberté, partagée avec les uns et les autres.
Alors, par exemple, il y a un grand événement qui revient tous les ans, qui est un événement national qui est porté par la Ligue de l'enseignement, notamment sur la Sarthe. Ce sont les semaines de lutte contre le racisme et contre les discriminations.
Voilà, tout à fait. Donc, justement, en Sarthe, on a un centre de ressources vraiment développé et un collectif d'une quarantaine de structures qui participent à mieux vivre ensemble grâce à des actions phares, expositions, débats, sorties culturelles, voilà, beaucoup de choses qui permettent de parler, de débattre, de changer éventuellement les préjugés.
Mmh, il y en a beaucoup.
Il y en a.
Jean-Paul Delahaye, il y a une semaine, le mardi 20 avril, c'est date à date, voilà. Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, lançait en présence de 6 intellectuels les états généraux de la laïcité. C'était au CNAM, le Conservatoire des Arts et des Métiers à Paris. Pour la Ligue de l'enseignement, la laïcité, c'est quoi pour vous, la laïcité ?
La laïcité, la Ligue de l'enseignement, on est à l'origine puisque c'est la Ligue de l'enseignement qui, avec Jean Massé, après avec Jules Ferry, a lancé l'idée d'une scolarité gratuite, obligatoire et laïque. Et c'est encore le président de la Ligue de l'enseignement, Ferdinand Buisson, qui en 1905 a été aux avant-postes pour la séparation des églises et de l'État. Donc la Ligue de l'enseignement et la laïcité, on peut dire d'une certaine manière, c'est la même chose. Et qu'est-ce que c'est que la laïcité? En fait, dans l'esprit de ses grands fondateurs, et nous en sommes les héritiers, la laïcité, c'est d'abord une liberté fondamentale de penser, une liberté de conscience, de croire, de ne pas croire, de changer de croyance. Et donc, dans une république laïque, on assure cette valeur fondamentale qui est la liberté. Et puis, la laïcité, c'est aussi l'égalité. Ça permet de garantir l'égalité entre tous les citoyens, quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu social, quelle que soit leur conviction politique, philosophique, religieuse, une stricte égalité entre les citoyens dans une république laïque. La république laïque ne fait pas de différence entre ses citoyens. Et pour cela, la laïcité, c'est assez simple à comprendre, utilise deux moyens, deux leviers sans lesquels il n'y aurait pas de liberté et il n'y aurait pas d'égalité. Le premier levier, c'est la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et le deuxième levier, c'est la neutralité. Dans une république laïque, l'État est laïque, la république est laïque, elle ne fait strictement aucune différence entre les religions et une stricte neutralité religieuse. Donc voilà, c'est ça la laïcité, c'est la liberté et l'égalité garantie par la séparation et la neutralité. Et la Ligue de l'enseignement est historiquement porteuse, évidemment, de ce principe d'organisation de la République.
Puisqu'on va évoquer dans quelques instants les états généraux de la laïcité qui ont donc été lancés par la ministre déléguée à la citoyenneté, est-ce qu'on peut dire qu'au fil des décennies, au fil des générations, cette question de la notion de laïcité est à nouveau interrogée ?
Oui, nécessairement, parce que la société elle-même évolue, donc la laïcité qui est fixée dans notre constitution, la République française est indivisible, laïque, démocratique et sociale, évidemment, en fonction des époques, eh bien, les modalités peuvent effectivement évoluer sans évidemment renier le principe fondamental. Donc la laïcité telle que Jules Ferry la conçoit pour l'instruction publique en 1882, n'est pas la laïcité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, exactement celle qu'on la conçoit aujourd'hui à l'école. Je vais vous donner juste un exemple. Quand Jules Ferry met en place l'instruction laïque, primaire, il laisse dans les programmes scolaires de l'époque une partie un tout petit peu religieuse avec les devoirs envers Dieu dans le programme d'instruction civique. Évidemment, ça n'a plus lieu aujourd'hui, hein, ça a été abandonné dès 1923. Au temps de Jules Ferry, on ne pensait pas à laïciser les élèves, si je puis dire. Les élèves ne sont pas intégrés dans la loi Ferry. Eh bien, il a fallu attendre 2004 pour que dans notre pays, on dise, eh bien, pour que les élèves puissent forger leur personnalité à l'abri de tout prosélytisme, eh bien, il faut interdire le port par les élèves de signes religieux ostensibles. Donc c'est un exemple que je vous donne pour montrer que la laïcité dans ses modalités de mise en œuvre est en évolution, elle est en histoire et c'est bien normal. Si je peux résumer un peu mon propos, c'est dire que d'une certaine manière la laïcité, au temps de la Troisième République, elle a puissamment contribué à l'unité de notre pays autour des valeurs dont je parlais tout à l'heure, de liberté et d'égalité. Donc ça a été un puissant vecteur d'unité de la nation. Aujourd'hui, la laïcité doit être utilisée par la République pour faire vivre la diversité, parce qu'il y a une diversité dans notre pays aujourd'hui, et il appartient à la laïcité de faire vivre cette diversité de façon apaisée et non conflictuelle.
Alors c'est justement la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est au nouveau mode de vie de s'adapter aux règles, aux notions de la laïcité, ou est-ce que c'est à la laïcité de s'adapter au nouveau mode de vie ?
Ben, j'allais vous dire les deux.
C'est une vaste question.
Absolument. Il ne faut absolument pas toucher à ce principe fondamental de laïcité qui est dans notre République. C'est un principe fondamental. Il faut absolument pas y toucher. Donc, on ne touche absolument pas à la liberté de conscience. On ne touche absolument pas à l'égalité entre les citoyens et, entre parenthèses, entre les femmes et les hommes. Donc, ça, ce sont des principes qui ne sont pas négociables. Bien entendu, on ne touche pas au principe de séparation des églises et de l'État. C'est-à-dire, les religions font ce qu'elles veulent chez elles, mais l'État, il est chez lui. Et quand l'État prend des décisions par, notamment, ses parlementaires, quand il produit de la législation, cette législation s'applique à tout le monde. Et donc on ne touche pas non plus au principe de neutralité. L'État doit être neutre et ses fonctionnaires doivent être neutres également. Donc ces principes-là sont intangibles. Simplement, il y a des évolutions parce que la société elle-même évolue. Et donc on peut parfaitement reconnaître une diversité dans la population. D'ailleurs, vous savez, cette diversité n'est pas nouvelle. Hein. Je cite souvent cette formule de Fernand Braudel, hein, notre grand historien qui est décédé en 1985. Il disait, lui, la France, ce sont des Frances différentes qui ont été cousues ensemble. Donc la diversité des religions, la diversité des croyances, la diversité des philosophies et donc la diversité des usages culturels sont présentes historiquement dans notre pays. Elles sont présentes aujourd'hui. peut-être parce qu'une religion, l'islam, faut dire les choses, est plus visible aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans sur notre territoire, et donc il faut que cette religion s'accommode aussi d'une république laïque dans laquelle on a séparé le pouvoir religieux et du pouvoir politique. Mais ça demande du temps, ça demande de l'enseignement aussi, et donc on revient là au rôle majeur des associations complémentaires de l'école pour faire partager à toute la jeunesse de ce pays, ces principes. L'an dernier, par exemple, nous avons, nous, Ligue de l'enseignement, contribué à l'éducation à la citoyenneté de pratiquement 1 million de jeunes par les activités dont vous parlez, notre présidente de la Sarthe, Nathalie, tout à l'heure, par nos guides, par nos outils que nous produisons, par nos stages que nous organisons, par nos jeux aussi que nous organisons. Nous favorisons cette éducation à la citoyenneté.
Jean-Paul Delahaye, vous parliez justement des diversités. Puisque cette question de la laïcité est interrogée aujourd'hui, et ce n'est pas qu'en 2021, ça fait un certain nombre de décennies, est-ce que ça veut dire qu'il y a une expression des diversités en France qui pose question, puisqu'elles interrogent la laïcité ?
Alors, cette diversité peut poser question à certains de nos concitoyens qui accepteraient la diversité à condition qu'on ne la voie pas.
Voilà.
À condition
qu'elle soit comme la leur.
Voilà. À condition que les diversités se taisent. Autrement dit, certains de nos concitoyens ont une conception de l'universalisme qui est en fait, soyez universaliste, mais soyez exactement comme nous. Dans une république laïque, il n'est pas obligatoire que les citoyens se ressemblent pour se rassembler. On peut se rassembler si l'on est différent, à condition, bien entendu, qu'on respecte tous les lois, les règlements, l'ordre public, à condition que dans l'enceinte scolaire, on ne fasse pas de prolésélytisme en direction de telle ou telle religion, ça c'est pas possible, mais tant qu'on respecte les règles de la République, une diversité peut parfaitement trouver à s'exprimer. Dans une République laïque, il n'y a pas de police du vêtement dans la rue, à condition évidemment de respecter les règles minimum d'ordre et de décence. On ne se promène pas tout nu dans la rue, bien entendu, mais il n'y a pas dans une république laïque une police du vêtement. En 1905, certains voulaient interdire le port de la soutane dans la rue. Donc il y a historiquement dans notre pays une catégorie de citoyens qui acceptent plus difficilement que les autres la diversité. Il faut apprendre à vivre ensemble. De l'autre côté, on ne peut pas non plus tolérer, accepter ce qui pourrait, au nom de la diversité, venir empiéter le domaine politique par des préceptes religieux qui s'imposeraient à tous. Si je prends l'exemple de la restauration scolaire, on peut parfaitement respecter la diversité en restauration scolaire en proposant aux enfants des menus différents. Par contre, il est absolument impossible de proposer aux enfants des menus cachers ou des menus halal, parce que là, pour le coup, c'est une diversité religieuse qui viendrait s'imposer dans les règles d'organisation publique de la restauration scolaire. Vous voyez ce que. Donc c'est un équilibre fragile. Il faut à la fois ne pas être dans une sorte de laïcité caporaliste qui viserait à uniformiser la totalité de la société. Et puis de l'autre côté, il ne faut pas accepter tout de la part des religions, parce que si on accepte de la part des religions ce qui vient empiéter sur le pouvoir politique, évidemment, là, on n'est plus dans une république laïque. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver. Et nous, à la Ligue de l'enseignement, nous défendons cet équilibre, cette position non-binaire d'une certaine manière. C'est ni tout l'un, ni tout l'autre.
Nathalie Kund, finalement, c'est le slogan de la semaine contre les discriminations, c'est tous ensemble, tous différents.
Oui, tout à fait, mais ça c'est non seulement pendant les semaines, mais tout au long de l'année. Et donc, pour revenir au principe de laïcité qui est essentiel et qu'on ne souhaite pas toucher, il est essentiel aujourd'hui de le faire connaître, de l'expliquer, de le faire vivre avec les objectifs qui ont été décrits par Jean-Paul. Et on met en place notamment des formations à destination des enfants, mais aussi des adultes, qui sont a priori indispensables aujourd'hui, puisque ce principe est méconnu, mal connu, mal utilisé, voire complètement manipulé.
Détourné.
Et on sait qu'au niveau des agents de la fonction publique ou des animateurs ou des élus, il y a besoin de ces formations-là justement pour faire appliquer cette loi avec les objectifs essentiels que l'on doit mettre en place.
On le disait au début, oui.
Oui, la difficulté que l'on rencontre, hein, pour continuer à répondre à votre question de tout à l'heure, c'est que la laïcité est malheureusement aujourd'hui trop souvent instrumentalisée. C'est-à-dire on utilise la laïcité pour finalement cacher le fait qu'on est plutôt raciste, qu'on n'aime pas les musulmans. Donc si vous voulez, ce qui est embêtant, c'est que certains se sont découverts laïcs dans notre République uniquement parce qu'ils ne supportent pas l'islam. Et donc ça, c'est une instrumentalisation de la laïcité.
On y reviendra justement dans quelques instants. On le disait au début de l'émission, Marlène Schiappa, donc la ministre déléguée à la citoyenneté, a lancé mardi dernier les états généraux de la laïcité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre réprobation sur la manière dont les états généraux de la laïcité ont été annoncés par la ministre, puisque vous êtes fendue d'un communiqué de presse?
Alors, il faut qu'on soit clair, la mise en œuvre du principe de laïcité, ça a toujours suscité des débats entre républicains. Et ces débats sont, et je peux vous dire que les débats autour de la loi de 1905, les débats autour de la loi de 2004 ont été vifs, mais ça c'est naturel, c'est fécond, à condition bien entendu qu'on organise ces débats collectivement, sereinement, loyalement, dans un esprit de concorde et non de division, comme on le dit dans notre communiqué. Donc la Ligue de l'enseignement, historiquement, est prête à ces débats avec une volonté de sincère, évidemment, de dialogue, de rassemblement. C'est pour ça avec une cinquantaine d'autres organisations tout de même, hein, parce qu'on...
Oui, vous n'êtes pas tout seul, hein, co-signataire.
On a 50 mouvements, beaucoup d'organisations, de syndicats, d'associations d'éducation populaire ont signé ce texte pour regretter en fait une annonce dans la presse, entre parenthèses, hein, jusqu'à preuve du contraire, le JDD n'est pas le journal officiel, hein, donc dans la presse, sans concertation, donc avec des travaux qui commenceraient sous 48 heures, avec des associations qui ont été invitées, d'autres non. Pourquoi? Au nom de quoi? Sur quels critères?
Vous pensez que la ministre a fait des choix d'associations et pas de d'autres?
Apparemment, hein, je ne sais pas comment ça a été organisé, mais je peux vous dire que la Ligue de l'enseignement, par exemple, n'a pas été invitée à participer à ces états généraux. Donc, quel est le sens de cette annonce, hein, qui est finalement sans beaucoup de transparence et sans volonté de rassembler, alors qu'entre parenthèses, on a une jeunesse qui souffre aujourd'hui. Hein, y a des urgences sociales, il y a des urgences écologiques, sanitaires. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas débattre de la laïcité, mais il ne faut pas en faire un outil pour un agenda politicien. Alors, pour instrumentaliser la laïcité. Donc nous, on a simplement constaté, malheureusement, que les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir participer à ces états généraux. Il n'empêche que, et nous le disons aussi très fortement dans ce texte, nous sommes prêts, évidemment, à débattre de la laïcité, de la manière dont cela évolue dans notre pays. On est disponible, on a toujours été disponible pour participer à un débat, mais pour un débat argumenté, serein, ouvert et organisé de façon collective, j'allais dire républicaine.
Ces états généraux, la laïcité commence dans un premier temps par une consultation, ça va durer 3 mois, des Françaises et des Français, pour leur permettre de s'exprimer, de donner leur avis, de faire part de leurs attentes, de faire connaître leurs bonnes pratiques, donc ça veut dire qu'il y a des mauvaises, et leurs propositions. Qu'est-ce que vous attendez de cette consultation qui se déroule par Internet, où il y a peu de participants, un peu de contributions à ce jour?
Bah là, on ne va pas anticiper sur la suite. Je pourrais vous répondre quand on verra ce qui est remonté de cette concertation, de cette consultation.
Vous voulez déjà que je vous donne quelques exemples?
Ce que l'on attend, c'est une clarification auprès de l'ensemble de la population qui vit sur notre pays, sur le sol de notre pays aujourd'hui, sur ce qu'est la laïcité, justement parce que seule une laïcité bien comprise peut être une laïcité bien acceptée et bien mise en œuvre par les citoyens. Donc il y a beaucoup de confusion. J'ai présidé le Comité national d'action laïque en 2018 avec cette grande enquête sur la laïcité à l'école, les enseignants ont la parole, et on a bien vu qu'il y avait beaucoup de difficultés aujourd'hui à enseigner la laïcité. On a des enseignants qui n'ont pas été suffisamment formés, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Donc, ce que l'on attendrait d'un débat serein organisé, c'est que remonte un véritable diagnostic et que ensuite, collectivement, la nation se rassemble pour mieux former les enseignants, mieux aider les associations d'éducation populaire qui portent la voix de la République au plus près des acteurs de terrain. C'est de cela, finalement, qu'on attendrait d'un débat serein organisé collectivement dans ce pays.
Voilà, on va expliquer comment se passe cette consultation. Il consiste à proposer des solutions et de prendre position sur ces solutions par un like ou pas. Enfin, voilà, c'est aussi simple que cela. Ces meilleures consultations nourriront donc les conclusions des états généraux de la laïcité et les actions du gouvernement dans ce domaine. Alors, nous sommes allés consulter certaines contributions. Je vous en donne quelques-unes. Par exemple, il faut refuser tout signe religieux à l'école, même pour les parents accompagnateurs. Il faut déjà appliquer la loi de 1905 partout avant de faire autre chose. La religion est personnelle et ne doit pas s'afficher en public. Pierre-Paul, 28 ans, dit « Il faut enseigner dès le plus jeune âge ce que représente la laïcité à travers l'école et des expériences pratiques. » C'est le travail que mène d'ailleurs la Ligue de l'enseignement. Olivier, 53 ans, « Il faut sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à la vie en commun et à l'esprit critique en leur fournissant les outils d'autonomie. » Et puis une dernière, Adrien, 22 ans, il faut éviter que les religieux imposent à tous leur mode de vie, incompris dans une même religion, car la foi se vit de différentes façons. Voilà, ce sont des contributions qui peuvent appeler à réflexion, mais est-ce que vous craignez des débordements dans ces contributions? Vous en parliez tout à l'heure, finalement la laïcité nous arrange en fonction du mode de vie qu'on souhaite vivre ensemble, parce qu'on ne sait pas s'il y a de modérateur sur cette consultation.
Dans ce que vous m'avez cité là, il n'y a rien qui dérange profondément, rien. Parce que ce sont des questions légitimes que peuvent se poser tous citoyens. La question de l'accompagnement des sorties scolaires est une question parfaitement légitime. Elle a été tranchée aujourd'hui dans le droit français. Les accompagnateurs de sorties scolaires ne sont pas des personnels ou des assistants du service public d'éducation avec une mission pédagogique. Ce sont simplement des accompagnateurs ayant une mission de sécurité. Donc, pour l'instant, le Conseil d'État a dit qu'il n'y a pas question d'interdire le port de signes religieux par les accompagnateurs. Mais la question peut parfaitement poser, un citoyen peut parfaitement poser cette question. Donc moi, cette question, quand elle est posée de cette manière, à condition qu'on puisse ensuite en débattre, et trouver et donc faire partager aux citoyens ce que dit le droit aujourd'hui, moi ça ne me pose aucun problème. Qu'un citoyen dise il faut appliquer la loi de 1905, si j'ai bien compris, et donc qu'on interdise toute manifestation religieuse dans la rue.
Ça ne doit pas s'afficher en public, voilà, ça reste personnel.
Public. Bon, et bien là il faut dire tranquillement à ce citoyen, à cette citoyenne qui s'exprime de cette manière, que ça c'est parfaitement contraire à la loi de 1905. La loi de 1905 sépare les églises et l'État, assure la liberté de conscience, mais assure aussi le libre exercice des cultes. Et donc, dans une république laïque, les religions, quelles qu'elles soient, sont parfaitement libres de pratiquer leur culte de la manière qu'elles le souhaitent. Et donc, ça n'interdit évidemment pas, dans la rue, des manifestations d'appartenance religieuse, à condition, bien entendu, qu'il y ait les règles d'ordre public qui soient parfaitement respecté. Mais là, on a une législation française qui permet de réglementer ces manifestations extérieures de la religion. Mais la loi de 1905 n'a jamais dit que la religion se pratique à l'intérieur du domicile et que rien ne doit se passer à l'extérieur. Donc ça, c'est une méconnaissance de la loi de 1905. Mais entre citoyens, paisiblement, dans le cadre d'un débat bien organisé, on peut sereinement discuter de cette chose-là.
Une dernière question. Oui, une dernière question.
Le citoyen qui dit les religions n'ont pas à empiéter sur les prérogatives politiques, là, ce citoyen, il a parfaitement raison. C'est le régime même de séparation des églises et de l'État. Les religions ont parfaitement le droit de penser tel ou tel, enfin, d'avoir tel ou tel avis sur telle ou telle mesure politique. Ben, tous les citoyens peuvent bien entendu s'exprimer, mais à partir du moment où la loi a tranché, et la loi, c'est l'article 3 hein, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen hein, dans notre pays, c'est le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Ce sont les députés et les sénateurs qui font la loi. À partir du moment où la loi a été votée, les religions doivent évidemment l'appliquer, parce qu'on est dans un régime de séparation. Justement.
Très rapidement, Jean-Paul Delay, parce que notre émission, malgré tout très passionnante, voilà, arrive à son terme. La ministre Marlène Schiappa a aussi annoncé le 20 avril que l'État lançait un fonds de 2,5 millions d'euros pour promouvoir les valeurs de la République, notamment sur les réseaux sociaux, et contrer les discours séparatistes. Est-ce que défendre les valeurs de la République et la laïcité passe de manière incontournable par ce qui se dit ou ce qui réagit sur les réseaux sociaux désormais ?
Oui, bien entendu. Donc là, on a un vecteur qui est pour le meilleur et pour le pire. Et on a vu dans quelques affaires récentes combien les réseaux sociaux peuvent être nuisibles sous couvert d'anonymat pour détruire des personnes, pour se semer le doute, injurier, calomnier. Et donc, bien entendu, cela, il nous appartient à nous. Hein. Vous savez, on le fait. Hein. On a des animateurs, on a des formateurs qui sont rompus à ce genre de choses. On a, bien entendu, en tant que républicain, à faire très attention à ces réseaux sociaux et donc bien entendu à contrôler la manière dont ils sont utilisés par certains pour semer la discorde, semer la haine, semer le racisme dans certains esprits.
Merci beaucoup Jean-Paul Delay. On rappelle que vous êtes administrateur national de la Ligue de l'enseignement. Merci beaucoup Nathalie Kuhn. On vous réinvitera parce qu'on n'a pas parlé de la Ligue de l'enseignement de la Sarthe qui fête, figurez-vous, son 90e anniversaire. Ce sera place des Jacobins au Mans le samedi 29 mai.
Oui, en espérant que ça puisse
se tenir. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. D'accord. On n'est pas loin l'un de l'autre. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour faire avancer justement cette réflexion sur la laïcité, puisque des états généraux viennent d'être lancés par la ministre déléguée à la citoyenneté. Merci à Yann Gisteling pour la réalisation technique de cette émission. On se retrouve en direct, ce sera jeudi maintenant à 12h30. Mon invité sera Denis Vaupré, le nouveau président du Conseil des quartiers sud-est du Mans. Tic-toc, 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 tic-toc.